ceux qui sont arrivés. Hier, nous avons terminé avec l'amour. Et l'hasard fait qu'aujourd'hui, on peut recommencer avec l'amour. Bien qu'il n'y ait toujours que l'amour. Donc, on peut parler de tout un tas de choses, mais ça finit toujours, il n'y a que ça. Et je dis qu'on revient là-dessus parce que, encore une fois, il y avait des questions pendant notre réunion de Sangha, notre réunion de travail, mais aussi d'information. Et ce matin, il y avait des questions. Et donc, je dis, je vais revenir là-dessus de nouveau. Et ça rejoint un peu de ce que j'avais pensé peut-être parler de toute façon, donc c'est parfait. Enfin, je veux toujours parler de ce qu'il y a ici maintenant. Et donc, ce qu'il y a ici maintenant, c'est ces questions qui étaient posées. La première question était, est-ce que dans le zen, il y a une pratique de ce qu'on appelle metta? Et aussi, en anglais, « loving kindness », je ne sais pas comment on traduit ça en français. Est-ce que quelqu'un sait ?
Amour bienveillant.
Oui, ça c'est en sanskrit. Mmh.
Loving kindness. On dit souvent la bienveillance, mais c'est encore
Ah oui, peut-être
ça.
Que c'est... c'est l'amour bienveillant, quelque chose comme ça. Mais c'est une pratique traditionnelle dans certaines pratiques... École bouddhiste, bouddhique. Et donc, la question était, dans le zen, est-ce qu'on a une pratique comme ça? Et le fait est, non, et oui, parce que toutes les pratiques s'agit de ça, pas explicitement comme ces pratiques où il s'agit de souhaiter le bien-être de tous les êtres d'une façon très méthodique, à commencer par des personnes plus proches, etc., et éloigner, plus en plus éloigné ou plus en plus difficile. On peut terminer avec Donald Trump, par exemple.
C'est la pratique suprême, ça.
Tout à fait. Mais ça peut être, oui, différents objets, personnages qu'on utilise pour... support pour souhaiter la bienveillance, etc. Puisqu'ils sont heureux, il y a tout un rituel à ce qu'on récite pour amener le bien, l'amour et le bien-être, la compassion à tous. Et donc, dans notre pratique zen, nous n'avons pas ça. Je vais revenir là-dessus. Et l'autre question était... quand on prosterne, qu'est-ce qu'on fait exactement? Enfin, c'était plutôt sur quel est physiquement le mouvement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ces prosternations. Et il y avait une remarque que Soshin prosterne un peu différemment que nous, moi, disons. Et, mais en fait, non. C'est pas différent. C'est juste un petit détail qui est aussi traditionnel de placer une main après l'autre et le genou après l'autre. Et parfois, ça devient, c'est tellement intégré ce mouvement qu'on ne voit même pas qu'il y a ces différences. Ça revient au même. Le principe de prosternation est le même. Et lever les mains, c'est le même. C'est la même chose, c'est juste peu différente dans la forme. Ce qui nous ramène à qu'est-ce que c'est prosterner, pourquoi on prosterne, pourquoi je dis que c'est la même chose quand c'est apparemment quelqu'un, Laurent, avait observé que c'était différent. Donc, ces deux questions sont très utiles pour explorer ce que c'est cette pratique zen, en fait. En ce qui est concerne aussi le rituel. Et le rituel, comme on sait ici, c'est tout et tout très ritualisé. On s'entraîne à pouvoir pratiquer les rituels. Ce soir, on va faire une cérémonie qui est très ritualisée. Rituel. Pour moi, mon chemin avec le rituel était comme pour beaucoup. Et on a parlé beaucoup de ça cette semaine, les différentes formes, pourquoi on fait ça. Beaucoup d'Orioki, qui est un rituel majeur pour nous dans cette pratique. Enfin, c'est une des rituels qu'on a retenu dans notre sangha, ou qu'on a introduit, comme Soshin a dit, selon les générations et selon les déplacements dans des pays, les choses changent. C'est ça la beauté du zen, du bouddhisme, c'est que chaque fois que ça s'est implanté dans un nouveau pays, ça a changé. Parce que chaque situation est différente, les circonstances sont différentes, les cultures sont différentes, les gens sont différents, etc. Alors, mon propre chemin avec les rituels, c'était au début, j'arrivais, comme beaucoup d'entre vous, je ne connaissais rien de rien, et je débarque dans ce truc, il y a des gens habillés en robe noire, ils font des prostrations, ils chantent, ils font des trucs, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et je ne faisais pas, enfin... Je faisais un peu, mais je ne comprenais pas. Au fur et à mesure, ça a changé, etc., etc. Mais ce qui était vraiment un super déclic, et j'étais bien avancée déjà dans ma pratique, c'est Georges Bataille. Georges Bataille, c'est un écrivain français. Les gens le connaissent plus ou moins, enfin, ou ont entendu parler, qui a une réputation sulfureuse, qui est vraiment un malentendu, parce que ce n'est pas du tout quelqu'un de sulfureux, hein, Bataille. C'est quelqu'un de c'était quelqu'un de profondément spirituel. Et qui, au début, avant de devenir écrivain et tout ça, il s'est entraîné même, il allait être prêtre. Il allait rentrer dans l'église. Pour des raisons diverses et variées, il n'a pas fait, mais... Ce qui m'a éclairé tellement, c'était ce qu'il dit sur le rituel. C'est que, et je résume ça, c'est que le rituel, et c'est tellement notre pratique, c'est le rituel, c'est une moyenne habile, on va dire, lui il ne dit pas ça, mais c'est une moyenne habile pour nous donner accès à l'impersonnel, ce qui n'est pas personnel, okay, à l'unité, à l'un. Le sacré, tout ça. Parce que pour participer à un rituel, que ce soit un chant, comme on a fait là, que ce soit l'orioki, que ce soit prosterner ensemble, tout rituel, on est avec les autres et tout le monde fait ensemble la même chose. Et pour participer à ce rituel, si on peut vraiment réussir à mettre à côté... à abandonner notre personnel. Moi, je veux chanter comme ça. Moi, je ne veux pas chanter comme ça. Moi, je veux pas prosterner maintenant. Je ne veux pas prosterner. Ce n'est pas un problème. Mais ça va limiter notre accès à le personnel. Ce qui est impersonnel en nous, qui rejoigne l'impersonnel dans l'autre. On peut dire la nature de Bouddha, l'essence de notre être, ce qu'on partage fondamentalement. Enfin, ce n'est même pas qu'on le partage, c'est qu'on est ça. Bernie Glassman disait, la seule chose qu'on partage, c'est nos différences. Parce que c'est ça, oui, on partage le fait qu'on est différente. Mais on est un. Et dans le rituel, la pratique de le rituel, quoi que ce soit comme rituel, on a accès à cette expérience d'unité, de l'âme que Bataille appelait impersonnelle. Bon, il a tout un truc avec le sacrifice, et ce qui n'est pas vraiment de quoi il s'agit pour nous, mais c'est le même principe. C'est quand on chante, par exemple. Parfois, si vous écoutez, c'est un peu n'importe quoi. Tout le monde chante ici et là, et ils ne respectent pas le rythme, le meneur du chant est censé avoir une voix qui porte et tout le monde est censé le suivre. Parfois, on ne le fait pas. Et ce n'est pas la responsabilité de la personne qui chante, la personne qui chante. C'est la responsabilité de chacun de se mettre en unisson avec les autres. Plutôt que d'avoir ma voix qui est merveilleuse et qui s'entend mieux que les autres, ou chante un rythme mieux que les autres, il s'agit juste de se mettre au rythme des autres. On a beaucoup parlé de ça d'Oriyuki, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais la même chose sur l'accès à l'impersonnel s'applique à l'Oriyuki, à tous les rituels. Donc le chant, c'est un très bon exemple. Parce qu'on sait que on entend qu'il y a des voix qui ne sont pas en accord. Et c'est juste, c'est pas grave. Enfin, c'est juste que on a moins possibilité d'accéder à cet impersonnel. Et ça joigne toute notre pratique qui vise à relâcher l'attachement à soi, s'ouvrir à l'autre, abandonner les idées préconçues, voir qui on est véritablement, parce que ce qui on est véritablement n'est pas cette personne qui veut chanter différemment que les autres. Et quand on chante avec les autres, c'est une possibilité de juste un tout petit peu lâcher comment moi je veux chanter. Et comme j'avais dit, l'histoire des robes, etc., que si tout le monde s'habille de la même façon, c'est une possibilité d'accéder à l'impersonnel. Il y avait le maître zen Suzuki Roshi qui disait à ses... Alors lui, il était en plein milieu des années 60 à San Francisco, qui était l'épicentre des mouvements de contre-culture américaine, de jeunesse, les hippies, les drogues, Jefferson Airplane, The Doors, tout ça. Et... non, The Doors, c'était Los Angeles, mais Jefferson Airplane, San Francisco. Grateful Dead, tout ça. Et donc, tous ces gens, peace et love, paix, amour, fleurs et tout ça, ils s'intéressaient à la méditation. Et ils venaient dans la pratiquer avec Suzuki Roshi. Et il les a acceptés, il les montrait, il les entraînait, etc. Et à un moment, il les incitait à... Il y en avait qui voulaient se mettre des robes. Il y en avait qui voulaient être moines, monastiques, et donc ils rasaient le crâne. Et Suzuki Roshi expliquait ça quand les gens le questionnaient. Il disait, quand vous êtes tous là avec vos barbes, les cheveux longs, les fleurs, les robes colorées, etc., etc., j'arrive pas à vous distinguer. Mais quand vous avez tous le même robe noire et le crâne rasé, là, je vois chacun complètement tel qu'il est. C'est le contraire complètement que l'on pense. On pense que oui, je vais avoir une coiffure comme ça, je vais m'habiller comme ça. Et dans la vie de tous les jours, c'est très important, ça aussi. Il faut avoir un sens de qui on est, notre place dans la société, etc. Adrien m'avait dit un truc intéressant qui était par rapport à Paris et le drôme. C'était que à Paris, tout le monde, bon, c'était son impression, mais tout le monde cherche à s'habiller plus ou moins de la même façon. Personne ne veut avoir un truc qui sort de l'ordinaire. Tandis qu'ici, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'as dit ça. Ici, les gens adorent avoir un blouson qui est différent que les autres. Les chaussures différentes que les autres, les choses comme ça. Ce qui est très intéressant. Hein. Et je ne sais pas de quoi il s'agit, vraiment, mais on pouvait probablement discourser sur ça. Mais c'est des sens de notre identité et les idées qu'on a sur ça. Donc le rituel, toute cette chose ritualisée ici, comme bataille, c'est pour accéder à l'impersonnel. Et ça nous permet plus de relâcher nos attachements à « je ne veux pas chanter, je ne veux pas posturner, je ne veux pas faire ceci ou cela » parce que, ah oui, c'est une occasion de lâcher quelque chose de moi-même et accéder à ce qui est notre unité, tous. Et ça vient à, donc ça nous amène à la prosternation. Les prosternations, donc, c'est... Il y a différentes façons d'aborder ça. J'avais pas beaucoup de temps ce matin parce qu'il a fallu re-regarder le rituel avec Claudia et Lisa pour la cérémonie ce soir. Donc, j'ai juste vite fait noter quelques trucs sur la prosternation pour ne pas oublier. C'est... Comme tout rituel, sauf ça, c'est chacun, on est censé le faire chacun ensemble. Et là, je parle de la prosternation, ce qu'on appelle un full prosternation. Il y a aussi ces gâchots qu'on fait quand on rentre, quand on s'assoit, quand on chante l'oryuki, etc. Mais je parle de ces prosternations comme on a fait avant, là, où il y avait ce remarque que ce n'était pas tout à fait pareil. Donc, c'est comme avec tous les rituels, c'est une occasion de se déposer mon attachement à moi. Ce qui est aussi déposé ou abandonné mes idées dualistes. Moi, l'autre, maître, disciple, place dans le Zendo, etc. Statue de Bouddha, hôtel, moi, etc. C'est une occasion de abandonner tout ça, déposer ça. Et ça, c'est très, très utile de se souvenir de ça. C'est une occasion magnifique de waouh. Il y avait un maître qui disait, je fais ça complètement par terre parce que je veux complètement tout déposer. Il dit, j'irai encore plus loin, mais le plancher m'arrête. Donc c'est vraiment... quand on peut lâcher ses attachements à moi, à mes idées dualistes, tout devient... sacré. Tout devient ton maître. Tout devient, tout est toi. Tout est l'autre. Tout est l'objet de vénération, disons. Et parce que si on a le moindre dualité dans notre esprit, toutes les différences sont ouvertes. Toutes les dualités sont ouvertes. Et donc, ces prosternations, c'est comme ça, c'est une possibilité de juste déposer tout ça. C'est aussi c'est Maizumi Roshi qui disait ça, c'était une façon de offrir son respect pour la sagesse qui est, comment on dit, pervades everywhere.
Universelle.
Universelle.
Immanente. Oui, ouais. Oui, qui je suis sûre qu'il y a une façon qu'on le chante dans les chants, mais bon. Et qui n'est pas juste cette statue qui est là, ou cet hôtel. Ou...
Qui pénètre tout.
qui pénètre tout et qui est partout, qui, oui, c'est ça. Et qui est aussi nous. C'est pas que c'est ailleurs, c'est nous. Et en déposant, en lâchant nos idées, nos attachements, etc., on réveille cette sagesse qui est en nous. Sagesse, c'est uniquement de rencontrer, de voir l'unité de toutes choses, la non-dualité du monde, le sacré du monde. Ça nous aide aussi, mais c'est aussi le Bouddha. Mais le Bouddha, ce n'est pas une personne. C'est toi le Bouddha, parce que toi aussi, tu as cette sagesse. Tu manifestes ça. Donc, ce n'est pas vraiment qu'on prosterne à cette statue. Ce n'est pas ça. C'est ce que ça représente. Ça représente l'éveil à cette vérité absolue qui est l'unité, la non-dualité. C'est aussi une action de... d'humilité, mais ça joigne abandonner mon attachement à moi, mes illusions de grandeur, disons. Ça nous fait, ça cultive un esprit de révérence envers toute chose, que ce soit le petit oiseau magnifique, morte, que Laurent a trouvé là l'autre jour, ou que ce soit le petit scarabée, ou je ne sais pas ce que c'était, qu'on a trouvé dans la chambre de Lisa hier, que ce soit le morceau de laitue qu'on va manger, que ce soit la personne face à moi, ça nous aide à éveiller cet esprit de révérence. On dit ça en français, révérence? Ouais. Mais c'est une connotation péjorative ou...
Non.
Parce que dans en anglais, dans l'église, on appelle le prêtre, etc., reverend. Mm-hmm. Et donc c'est une posture, c'est une position, tu vois, c'est reverend. Qui est, bon, pourquoi pas, hein, mais ça peut avoir des connotations. Et donc, comment on le fait? Donc, on a vu qu'il y avait deux différentes, mais qui ne sont pas vraiment différentes. Parce que c'est important, quand on fait des rituels, d'être quand même conscient de ce qu'on fait. Et donc, si on fait la prosternation trop vite, ou si on n'est pas en train de penser, oui, je vais de rester dans cet esprit révérent, ou même cet esprit de quand on s'assoit, ce sera un peu sloppy. On dit, comment on dit sloppy? Un peu.
Bâclé.
Quoi? Oui, un peu bâclé, un peu n'importe quoi. C'est juste bâclé, oui, c'est ça. Et si on le fait trop lent, ça devient pompeux, franchement. Quoi?
Révérentiel.
Oui, c'est ça. Et donc, tout l'enjeu, comme avec tout, c'est de trouver la voie du milieu. Pas trop vite, pas trop lent, mais juste, si on reste, si on est un avec ça, ce sera parfait. Et le parfait change tout le temps. Comme avec nos petits tapis de Orioki. J'ai ces Orioki depuis, je ne sais pas, 25 ans. Hein, non, 20 ans. J'ai eu 21 ans, j'ai eu pour ma transmission. Et ce tissu, chaque fois que je le fais, c'est différent. Le forme est différent. Le pliage est différent. Chaque fois, c'est différent. C'est en vie, c'est vivant. Donc, chaque fois qu'on prosterne, ça va être différent parce que c'est vivant. Mais alors, comment on accorde avec tout, avec unité? Et je ne sais pas pour Soshin, mais je me souviens maintenant, après qu'on avait parlé de ça, que cette idée de poser une main après l'autre et un genou après l'autre, ça faisait partie du rituel pour ne pas aller trop vite, pour ne pas être trop n'importe comment, pour ne pas être trop bâclé. Et si on fait ça trop exagéré, bah, ça devient pompeux. Donc l'enjeu, c'est de le faire fluide, etc. Et anecdote encore, donc il y a 21 ans, donc j'ai reçu les transmissions de mon maître. Et pendant la cérémonie, il y a beaucoup, beaucoup de prosternation. Et toute la semaine, on doit prosterner, etc. Pour la personne qui le reçoit, pas pour le reste de son bien. Et puis, à la fin de tout ça, cette semaine, il y a des maîtres. Il y avait mon maître, Gyanpo Roshi, qui a dit quelque chose. Et il y avait son maître, Gyanpo Roshi, qui était là, qui a dit quelque chose. Et donc, il a dit quelque chose de, je ne sais pas, oui, je suis sûre que Amy, elle va continuer, etc. Je suis très heureux pour vous deux, etc. Et il dit, par contre, elle ne s'est même pas prosternée. Et ce qui était vrai, et il avait fait comme ça, il a dit, elle prosterne et elle fait ça. Ce qui est vrai. Je ne savais pas. Enfin, je ne pensais pas. Je faisais ça. Et on les pensait faire ça. Et... Quoi ? Oui, exactement. C'était débarrasse-moi de tout ça. Pas de quartier. Parce que j'étais un peu comme ça. Hein. Pas de quartier. Bon, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit effectivement de se prosterner. Et comme on avait dit ce matin, ça symbolise, on a un pied du Bouddha dans chaque main et on le lève comme ça. Donc moi, oui, ça me donnait l'impression que je l'ai jeté. C'est ça. Je jetais, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Donc, c'est important, quoi, ça. Et donc... Oui, juste pour finir avec cette anecdote, ça a à voir complètement avec la relation que j'ai avec ce maître, sa façon de vivre, d'enseigner, etc. Il est très cash comme ça, etc. Et comme ici, tout le monde a rigolé. Les centaines de personnes là rigolaient. Moi, donc c'est important ça. Et quand on dit on élève le Bouddha, c'est pas forcément, on peut dire, ok, c'est une personne, Shakyamuni Bouddha, Siddhartha, qui a fait ce chemin il y a 2500 ans, qui a réalisé l'éveil, etc. Si vous voulez, vous pouvez dire que c'est cette personne-là. Mais il n'est pas là, franchement. Il est là parce que, en vous et en nous, c'est comme Maizumi Roshi dit, on soulève cette sagesse, cette vertu. Que ça représente, qui est représenté par cette personne. Et c'est, ça nous aide aussi à, pas d'une façon, il ne s'agit pas de s'écraser, mais ça peut nous aider à déposer, nous, notre attachement à moi, en s'élevant comme ça. Et donc moi, j'ai interprété ça, je me débarrasse de moi comme ça, mais ce n'est pas ça. Et donc, quand on peut se débarrasser de ces idées dualistes qu'on a, moi, l'autre, moi bien, moi pas bien, etc., on voit les choses telles qu'elles sont, on respecte toute chose qui est à sa place, et quand on prosterne au Bouddha, disons, on prosterne à soi-même. Parce qu'on est inclus dans ça. Ça, c'est peut-être le plus difficile, c'est d'inclure soi-même dans ça. Dans cette qui mérite de respect, amour, compassion. Mais si on voit qui on est véritablement et qui est l'autre véritablement, ça, c'est pas difficile, donc, d'inclure soi-même et l'autre dans ça. Et tout ça est très précis, donc. À chaque instant, tout est exactement comme c'est. Et il s'agit de voir ça comme ça. Tout est juste comme si cela, maintenant, ici, maintenant. Et chaque chose a sa place. Le courant qui est merveilleux sont la neige, les flocons de neige. il ne tombe pas dans un autre endroit. Chacun tombe parfaitement là où il est. Et chacun, comme on sait, est différent. On a vu sur les microscopes que chaque flocon de neige est une cristal, fait des cristaux complètement uniques. Et chacun tombe exactement à sa place. C'est une métaphore pour nous. Chacun tombe à sa place et on fait ça ensemble. Donc, on est différent et on est un. Alors, pour ce qui concerne la question sur le méta et l'amour, peut-être vous pouvez voir où on vient avec ça. C'est-à-dire que si on ouvre, si on abandonne notre attachement à soi, si cet je est dissous, si cet attachement est dissous, on dit ça dissous en français ? Dissous, oui, dissous. Si cet attachement à cette fausse identité qu'on a est dissous, ce qui est tout naturel, l'action naturelle de ça, c'est amour et compassion. C'est, si vous ne le croyez pas, essayez pour vous-même. Donc, avec tout ce que je dis, hein, je vous raconte mon expérience et ça ne vaut rien du tout si vous, vous expérimentez ça pour vous. C'est juste des paroles. Donc, si cet attachement est véritablement dissu, qui est en train de prosterner ? Qui ne veut pas prosterner ? Bon, ça, c'est juste un exemple. Naturellement, l'action naturelle, c'est la compassion et l'amour pour tous les êtres. Et on le chante. Donc. Et on le chante, par exemple, innombrables sont les êtres vivants. OK, oui. Et ça inclut les plantes, scarabées, etc. C'est innombrable, infini, OK. Et puis après, je dis, je fais le vœu de les sauver tous. Bon, sauver, en commençant, c'est un mot problématique. Sauf que, je vais revenir à ça aussi. C'est impossible. Comment je peux les sauver tous? C'est impossible. Donc, je ne vais pas le faire. Mais puisqu'ils sont innombrables, l'être qui est devant toi fait partie de ça. Et donc, il s'agit juste de lui. Il s'agit de lui. Cet être, c'est sans cesse. Il y a toujours un être vivant là. C'est innombrable. Et donc, ça nous libère complètement de... C'est juste ici, maintenant. On n'a pas à chercher ailleurs. C'est ici, maintenant. Alors, sauver, comme ça a une connotation très curée, etc. Et ça implique aussi qu'il y a... c'est très dualiste aussi qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Et ça nous met dans une position « Ah, moi, je peux être sauvé. » Est-ce qu'on peut regarder ça d'une autre façon que ce mot « sauver » on utilise aussi, par exemple, au moins en anglais, économiser l'énergie, économiser l'eau. En anglais, on dit « save water »,« save energy ». Donc, c'est un respect et de prendre soin de ça, de l'eau, de l'énergie, de l'électricité, je ne sais pas. Ça, c'est juste des trucs très pragmatiques dans lesquels on peut regarder ça. Et donc, si on regarde de cette façon autrement, c'est donc il s'agit plutôt de voir et s'occuper de faire ce qu'il faut pour ou avec. Ça implique d'abord de voir. Et parfois, juste voir quelqu'un est ce qu'il faut. Reconnaître l'existence de quelqu'un est parfois absolument la seule chose qui est nécessaire. Reconnaître leur être, reconnaître leur dignité, donc respect de... Donc, c'est là où s'adjoint cette notion de respect de l'eau, respect de la planète, respect de... C'est, ça, c'est comme ça qu'on le sauve, d'une certaine façon. Et ça, donc, on entend dans nos chants, on parle toujours de tous les êtres, on parle de, dans le Ryoki, de reconnaître tous les efforts qui nous ont amené ce, ce repas. C'est une façon de, comme dans la métta, etc., de donner notre respect à ça, à de reconnaître ça. Et de ne pas le gaspiller, donc, de le respecter. On est censé ne pas gaspiller une goutte de cette eau avec laquelle on lave nos bols. On est censé manger tout ce qui est dans nos bols. Ce qui est reçu, on le mange. Sauf un petit peu qu'on offre aux autres, symboliquement. C'est pour ça que ce qui est dans le premier bol, pour ceux qui ne connaissent pas Ryoki, ce n'est pas très grave, mais on a trois bols, et dans le premier bol symbolise ce qu'on appelle le bol du Bouddha. Et que lui et les membres, ses disciples, ils allaient mendier pour avoir à manger. Et tout ce qui était mis dans ce bol, ils mangeaient. Il n'y avait pas un tri. Bon, évidemment, si c'était pourri, ou je ne sais pas, mais... Ils mangeaient ce qui était offert. Et donc, tout ce qui était dans ce bol allait dans leur bouche, ils n'allaient pas ailleurs. Et nous, symboliquement, c'est pour ça qu'on ne peut pas déplacer qui est dans le premier bol dans le deuxième ou le troisième. Par contre, on peut faire dans l'autre sens. On peut mettre ce qui est dans le troisième ou le deuxième dans le premier. C'est un rituel qui nous rappelle, qui nous aide à cultiver cet esprit de unité, de bienveillance, de lâcher l'attachement à soi et de le faire tous ensemble. C'est comme ça que cette notion de compassion et amour se manifeste dans nos pratiques. Et j'avais aussi pensé à ce qu'aujourd'hui est très très répandu, cette méditation qu'on appelle la pleine conscience, qui à l'origine était, enfin c'était introduit en Occident principalement par Thich Nhat Hanh, qui était un maître zen vietnamien qui était obligé de fuir le Vietnam pendant la guerre et qui est venu en Occident. Et il a introduit cette pratique dans les années 60 pour éveiller, comme une pratique zen, pour éveiller l'esprit à cet esprit de bienveillance, amour, pour dissoudre cet attachement à soi, et avoir une compassion. Et il avait introduit en partie, parmi ses moines déjà au Vietnam, pour mieux répondre à la population qui essayait de résister pendant la guerre, résister aux Américains, mais aussi aux Nord-Vietnamiens, les communistes. Et puis, il a amené ça aux États-Unis et ça, il avait amené ça dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis, avec Martin Luther King, qui était un chrétien, etc. Et tout ce mouvement, tout le mouvement de résistance aux États-Unis était spirituel, donc avec Thich Nhat Hanh et Martin Luther King. Et King l'avait même nominé, Thich Nhat Hanh, pour le prix Nobel, qu'il n'a pas gagné. Mais c'est à ce point-là qu'il vénérait cette pratique de pleine conscience qu'il avait. Alors après, ça a été pris et on sait que vraiment ça a pris un essor d'abord dans les hôpitaux avec John Kabat-Zinn, qui a mis ça en... pour aider les gens à gérer stress, anxiété, maladies chroniques, douleurs, dans un milieu hospitalisé, avec des gens qui étaient en hôpital, que ce soit psychologique ou physique, je ne sais pas.
John Kabat-Zinn.
Par exemple.
John Kabat-Zinn.
Oui, c'est ça.
Zinn,
oui, c'est ça.
Ben, je ne dis pas bien, mais...
Oui, c'est ça, mais j'ai compris. Oui, c'est lui qui a fait ça. Et puis, ça a été adopté par les psychothérapeutes, et puis, c'était devenu plus élargi. Jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, où tout l'aspect de dissuader de l'attachement à soi, de éveiller la conscience de compassion, l'aspect éthique de ça, donc puisque on est un, donc il y a l'éthique, c'est que on va pas tuer. On ne va pas voler, des choses comme ça, tout ce qu'on appelle les préceptes dans notre pratique. Parce qu'on est un, et ça n'a aucun sens de voler. De qui on vole? On ne veut pas faire mal à l'autre, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu, et là, c'est radical, c'est devenu un outil de discipline. Bon, comme tous les rituels, c'est une discipline, effectivement. Mais non pas pour la libération de soi, mais, et ça c'est grave, mais pour mieux s'adapter aux conditions qui génèrent justement le problème qu'on a, en nos anxiétés, notre stress, etc. C'est fait pour qu'on puisse mieux gérer ça. Et le vrai détournement de ça, c'est que c'est devenu dans le monde capitaliste néolibéral, dans les corporations, les entreprises, etc. Ils ont saisi ça, évidemment. Parce que ça, plutôt que... Bon, l'idée, c'est que ça va aider les gens à gérer le stress, etc. Mais ça renverse le problème. Donc, plutôt que de dire que le problème, c'est la façon que le monde fonctionne... Ce n'est pas l'individu qui est le problème. Et donc, ils font ça pour que les travailleurs puissent mieux produire, puissent moins soucier de ce qui les entoure, moins se soucier des autres. Et j'ai lu ça récemment, que le summum, je ne savais pas ce que ça existait, mais à Amazon, apparemment,
oui.
Il y a ce qu'on appelle... Bon, oui. On dit parfois que c'est les cellules, mais parfois on dit que c'est les cercueils, en fait.
Les cercueils.
Oui. Dans lequel, c'est une petite boîte dans laquelle l'ouvrier, ou je ne sais pas, peut-être c'est un cadre même, va, il regarde un petit vidéo, il fait 2 minutes de pratique, et puis il retourne à l'usine, ou à son bureau, etc.
Pratique de quoi? Méditation de pleine conscience.
Enfin, oui, c'est ça. Et donc, c'est une façon de mettre la blâme sur l'individu plutôt que sur les causes de ce qui fait qu'on est anxieux.
Mais les religions ont toujours servi à ça.
Pardon ?
Les religions ont toujours servi à ça.
Peut-être.
Peut-être.
Oui, on peut regarder ça comme ça. Hein. Je dis simplement que ça a été détourné. Ça a été vidé à son âme, l'aspiration de se libérer de l'attachement à soi, de avoir de la compassion pour les autres et l'amour et le sacré de tout, et ça, tout ça a été vidé pour avoir un truc productif. Ce qui, dans la pratique zen, et donc le zen, mais tout le bouddhisme d'une certaine façon, mais moi, je connais le zen. C'est là où c'est révolutionnaire et radical. Parce que notre pratique vise à renverser ce système dysfonctionnel. On ne va pas aller dans les entreprises et les renverser. Mais ce système dysfonctionnel, c'est là, en nous. Et donc, ça vise à renverser ça. Le statu quo de ce moi qui impose ses doigts sur moi. Enfin, sur moi, il faut savoir qui est moi et de quoi il s'agit. Mais le statu quo de... C'est ça qu'il faut renverser. C'est pas le chef d'entreprise, hein, c'est ici. Et il y a des années, avant qu'il y avait tout cet essor autour de, en entreprise de méditation, on m'avait encouragé de le faire. Il y avait même Norman Fisher, un maître zen américain que je connais, qui est aussi poète, et donc on a beaucoup de liens entre nous. Et lui, il fait ce genre de choses dans les entreprises. Il est en Californie, donc c'est toujours à la pointe de ces choses-là. Il m'avait dit, non, mais tu devrais y aller, t'es parfait, t'as travaillé dans le monde. Bon, j'ai travaillé dans une salle de rédaction qui n'a rien à voir avec des entreprises néolibérales, en fait, ou des bureaux où on a un truc à faire. Salle de rédaction, c'est très vivant, c'était pas du tout pareil. Mais c'est vrai que je connais, aller à un boulot, etc. Et moi, je lui dis, mais si je vais faire ça et je transmets véritablement cette pratique, et eux, ils le font véritablement, ils vont tous quitter leur boulot et ils vont être les mauvais. Parce que lui, il me disait, non, mais tu vas le faire. Ils vont être meilleurs, ça va les aider à travailler, etc. Mais ça ne m'intéresse pas, ça. Enfin, moi, ce que je veux, qu'ils se libèrent. Peut-être qu'ils vont se libérer, voir leur vrai être, et ils vont travailler toujours à ce boulot. Moi, j'ai fait ça. J'ai continué mon travail de journaliste. Parce que ce n'était pas un problème. Mais si, je ne sais pas, si on est trader à Wall Street, peut-être que si on voit qui on est véritablement, on ne va pas avoir le même niaque pour ça, hein, pour entuber les gens et trader, etc. Je ne sais pas. Donc, c'est ça la révolution des zones. C'est ça la révolution des rituels qu'on a. C'est ça la révolution de prosterner, de manger en oryuki, de faire tout ce qu'on fait. C'est ça. C'est ça qui est visé, cette révolution, qui est la libération, ici, maintenant, de chacun. Je ne veux pas donner l'impression que je fais un tirade contre la pleine conscience et le système capitaliste. C'est pas tellement ça qui m'intéresse. Hein. C'est pas tellement ça. Mais c'est quelque chose qui est saisissant pour nous tous, parce que tous, on est gênés. Tous en souffrent, plutôt, comme j'ai dit hier, plutôt que d'avoir cette vision périphérique large et vaste qui englobe tout, on est là en train de faire ça, quoi. Tous. Donc, c'est ça la prosternation, c'est ça le méta. Et oui, tout est fait pour se libérer et à renverser le statu quo que je m'impose sur moi-même. C'est révolutionnaire, c'est radical, on est chacun un rebelle. Il s'agit d'éveiller ce rebelle en soi et renverser ce qui nous entraves. Et paradoxalement, on fait ça en tous faisant ensemble le même rituel. Alors, peut-être on arrête là. Quelle heure est-il? Oui, donc on a un peu de temps pour les questions, les commentaires ou ce qui... Oui, allez, oui.
Nous sommes américains. Nous sommes américaines. J'aimerais savoir comment tu perçois la souffrance de ce qui se passe aux États-Unis. Que ce soit, ce n'est pas une question politique, les gens à gauche, les gens à droite. Et il est vrai que je pose cette question parce que je suis américaine et voilà, donc le moi est là-dedans. Mais moi j'ai du mal à comprendre gérer ça. Et je dis ça parce que je disais à Soshin que j'écris les newsletters de Democrats Abroad. Et
démocrates à l'étranger.
Que je reçois parfois.
Pas souvent. J'ai du mal.
Une revue qui s'appelle Démocrates à l'étranger.
J'ai du mal.
À quoi?
À écrire.
Aller là-dedans, savoir de ce qui se passe, savoir ce qu'il faut, sur quel pied danser par rapport à ce que je vais écrire. Il faut donner de l'espoir. Et quelque part, je vais être honnête, je me pose la question si le poison est tellement profond. Et des fois, je me dis, ils ont fait leur vie.
Qui, ils?
Le pays. Ah. Et je vois que je suis mal positionnée pour ressentir ça, mais je suis honnête. Je ressens ça. Mm-hmm.
Et donc, quand tu dis ça, c'est, bon, laisse tomber. Je ne vais plus m'en occuper ou tant pis, ils ont fait leur vie?
Je patauge.
Ah, ok.
Enfin, c'est dur.
Oui, oui, non, je sais. C'est dur, oui, c'est dur. Y a tellement de choses qu'on puisse dire, mais pour... si on revient à l'essentiel, donc... mon expérience, donc encore je peux parler de mon expérience, c'est que j'ai une absolue confiance dans ce que les Tibétains appellent le basic goodness, le bien, bienveillance profonde, basique de l'être. Et j'ai aucun doute là-dessus. Il y a tellement de choses qui couvrent ça, qui entravent ça. C'est pour ça qu'on est ici, parce qu'on essaie de se libérer de nos entraves. Et tout ce qui entrave, qui couvre ça, prend de l'ampleur et crée donc... tout ce qu'on voit, c'est les symptômes de ça, quoi. Et ce qu'on appelle les trois poisons, le greed, anger, ignorance. Donc c'est quoi ça?
Avidité, colère et haine.
Voilà, avidité, colère et ignorance. Voilà. Tout ce qu'on voit se réduit à ça. Donc, c'est ça. Qui emporte ça aussi, nous. Donc, c'est, et les antidotes de ça, donc de cette poison qui est l'avidité, c'est la générosité. L'antidote de ce poison qui est la colère, la haine, c'est l'amour, la compassion. Et l'antidote de cet autre poison qui est l'ignorance, c'est-à-dire de figer dans un monde de dualité plutôt que de voir l'unité, c'est la sagesse qui est de voir l'unité, la non-dualité. J'ai absolument confiance en ça, parce que je sais pour moi-même et pour les centaines de gens que je vois dans cette pratique avec qui je travaille et dans différentes choses, etc. J'ai absolument confiance en ça. Alors, comment ça peut... On sait aussi, j'ai absolument confiance aussi dans l'impermanence. Ceci aussi va passer. Ceci aussi va changer. On ne sait pas comment, mais ça va passer. Les gens qui mènent la danse, si tu veux, aux États-Unis, et juste pour prendre cet exemple, ils vont mourir. Ils vont disparaître. Ça va changer. Ça va changer. On ne sait pas comment. Alors, je prends comme exemple, et donc je suis fière parce que c'est ma ville, mais c'est très intéressant comme exemple. Parce que pour ceux qui n'en sont pas au courant, il y a c'est ce qu'on appelle parfois la Gestapo américain, l'ICE, qui a envahi une ville.
C'est Minneapolis.
Oui, c'est ça. Et c'est une espèce d'orage parfait parce que la taille de Minneapolis, qui est, je sais pas, il y a 2 millions de personnes, mais c'est plus petit que Chicago et Los Angeles où ils ont déjà essayé. Et ça n'a pas la même dynamique, la population est très différente. Minneapolis, la réponse était la résistance pacifique. Et parce qu'ils avaient déjà l'expérience il y a 6 ans, quand George Floyd, un noir, a été tué par les flics. Et ça a donné des émeutes terribles. Beaucoup de violence, mais qui était aussi générée par les casseurs de l'autre côté qui venaient pour mener la danse. Voilà. Donc, la ville a beaucoup appris de ça, a beaucoup travaillé ensemble, a créé les organismes, etc. Et c'est aussi une ville qui, traditionnellement, depuis toujours, accueille les étrangers, que ce soit les réfugiés vietnamiens dans les années 60, les Coréens avant ça. Aujourd'hui, oui, dans les années 90, c'était des Somaliens. Ensuite, c'est beaucoup, beaucoup de gens de l'Amérique latine, les hispaniques. C'est une partie des États-Unis qui, OK, bon, on a cette horrible histoire, qu'on a colonisé un terre qui n'était pas à nous, mais qui est très problématique. Mais cette partie-là était colonisée pour la plupart par les Scandinaves. Et ce qu'on sait, la Scandinavie, c'est un pays de tolérance. Bon, c'est un stéréotype, mais... Oui. Pardon ?
Oui, l'image.
Oui, c'est une image. Mais il y a quelque chose dans cette population qui a donné à Minneapolis, qui fait une base. C'est une communauté où toutes les communautés vivent ensemble. Les juifs, les catholiques, les protestants, les somaliens, tout ce que tu veux des immigrés. Sans aucun problème, grosso modo. Les Noirs aussi. C'est pas un pays, c'est pas un endroit qui est très ségrégué. Et donc, quand on vient essayer de corriger leur ville et faire mal à leurs voisins, parce que tout le monde vit ensemble, ben non. Et donc, ils ont agi d'une façon, avec unité, et ce n'est pas politisé ce mouvement. Ce qui est très intéressant aussi. Bon, c'est un État démocrate, ville démocrate, qui n'a pas voté pour un républicain depuis, 60 ans ou plus. Et c'est pour ça que Trump l'attaque, parce qu'il est fâché. Parce que ça représente tout ce qu'il déteste. Mais ils n'ont pas répondu avec de la haine. Ils ont répondu avec de l'amour. Et des chansons. Et l'entraide. Les gens qui n'osent pas sortir de la maison, on leur amène à manger. Les écoles ont commencé à faire des cours en ligne pour des gamins, parce que les petits immigrés ne veulent pas aller à l'école parce que leurs parents vont être arrêtés, etc. C'est pas parfait, mais c'est ça l'esprit qui me donne beaucoup d'espoir. Et qui rejoigne ce que Malraux a dit, mais apparemment il n'a pas vraiment dit, que le 21e siècle, ce sera spirituel ou ce ne sera pas. Je ne sais pas exactement l'histoire. On dit toujours que Malraux l'a dit, et puis d'autres gens disent non, Malraux ne l'a jamais dit. Il a dû dire quelque chose comme ça, ou quelqu'un l'a dit et attribué à Malraux. En tout cas, je trouve que c'est très perspicace. Parce que sans cette unité, sans voir l'autre, pas comme l'autre, mais comme moi, on va se tuer. Et comme c'est aussi Adrien qui a pointé ça parfois quand, dans un groupe d'études, je crois, quand c'était. Et c'est vrai, nous, les êtres humains, on a l'impression que oui, c'est catastrophique parce qu'on va disparaître et tout va disparaître. Mais peut-être notre espèce va disparaître, mais d'autres choses, les autres vont être tranquilles peut-être sans nous. Donc, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Mais c'est ça l'enjeu. C'est toute cette révolution de vivre ensemble, de vivre avec la terre, les Indiens d'Amérique, j'ai lu un livre récemment, un Indien raconte que, et ça c'est encore dans le Minnesota, les Dakota, donc c'était les Dakota et les Dakota, les Indiens, eux, ils n'ont pas, les Indiens n'ont pas l'impression qu'ils ont la terre. Ils sont la terre. Ils sont juste une autre partie, comme les animaux, comme les plantes, etc. Et tout fonctionne ensemble. Et ils ont leur façon de vivre avec la terre et les êtres, les autres êtres, et les plantes, et les animaux, etc. Mais les autres ont aussi leur façon, et tout le monde est ensemble. Tout le monde étant les animaux, la terre, etc. L'homme blanc arrive et demande s'ils peuvent utiliser leur terre. Ils n'ont pas très bien compris ce que c'était utiliser la terre, mais ils ont dit oui, pourquoi pas? Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient comme eux. Ils n'ont pas compris. Et puis, quand l'homme blanc lui propose de donner de l'argent pour prendre la terre pour eux, ils n'ont pas compris. Ils ne comprenaient pas. D'où, c'est une mécompréhension fondamentale qui a engendré un truc sanglant et là où on est aujourd'hui. Donc, je ne dis pas qu'on va revenir à vivre comme les Indiens, parce qu'eux-mêmes, ils ne vivront plus comme ça. Mais ils ont beaucoup plus de respect, ça revient à cette notion de respect, de l'attachement, à, quitter l'attachement à moi. C'est ça qui me donne l'espoir. Pas uniquement pour les États-Unis, parce que ces trois poisons se manifestent partout, de différentes façons. Comme le zen, comme le bouddhisme. Selon la culture, il manifeste d'une certaine façon. Et ça se trouve que cette culture de l'homme blanc américain a pris une telle ampleur que ça a imprégné d'autres sociétés, d'autres cultures, etc. Mais les trois racines sont les mêmes. Les trois poisons sont les mêmes et les antidotes sont les mêmes. Comment ça va se manifester, on ne sait pas. Mais on commence à voir que ce n'est pas par les arguments partisans. Et Minnesota donne un exemple de ça, que ce n'est pas partisan. J'ai lu récemment que, je crois que c'est 80% des gens de Minnesota, dans un sondage, n'étaient pas d'accord avec la façon que ICE intervenait. Et ce n'est pas 80% des gens qui sont démocrates. C'est le 20%, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon. C'est juste que c'est, si on peut revenir, c'est ça qui peut nous aider à revenir à de quoi il s'agit véritablement et ne pas engager dans la haine ou plus d'avidité ou plus d'ignorance. De cultiver le reste. L'amour, la sagesse, la générosité.
J'ai l'impression que c'est... En tout cas, ça me parle de cette phrase « Innombrables sont les êtres vivants, je fais le vœu de les sauver tous ». J'étais surprise, moi, depuis le début de ce mot « sauver », mais comment exprimer ? Si je m'occupe de moi, je sauve, déjà.
Absolument. C'est le premier, là, oui.
Mais si je m'occupe de moi, je m'occupe de tous aussi. Je m'occupe de cette unité.
Absolument.
Et là, le mot sauver me paraît vraiment juste.
Exactement. Et il y avait un maître tibétain, Trungpa, qui disait le bodhisattva, donc c'est la personne qui s'est sauvée, et donc fait le vœu de sauver les autres, ce n'est pas qu'il ne s'occupe plus de lui-même. C'est qu'il ne s'occupe plus que de lui-même. Donc c'est ça. C'est, si vraiment on se réalise, on va s'occuper des autres. C'est tout naturel. Et donc, de cette façon-là, oui, si on s'occupe de nous, si on se sauve de nous, si on nous épargne, donc se sauver, si on s'épargne de cette, toutes ces s'épargner dans le sens éviter d'être entravé, arrêter d'être, de se faire du mal, etc. Oui, naturellement, ça a un effet sur les autres. Absolument.
Ça me fait penser à une phrase qu'on retrouve chez les catholiques ou chez les chrétiens. Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Exactement. Ouais. C'est ça, exactement pareil. Oui, c'est ça. Et d'où l'importance de s'éveiller, parce que si on fait comme ces trucs de pleine conscience, je m'occupe de moi. Charité pour moi. C'est là où ils sont éveillés, ce que c'est moi et ce que c'est l'autre, quoi, pour venir le faire, pour bien le faire. Oui, toutes les traditions spirituelles, organisées ou non, que ce soit indigène, que ce soit partout, se rejoignent sur ça. Sur le sacré, sur l'amour, sur l'unité, tous. À leur façon. Oui. On s'arrête ?